souvent la thérapie est nécessaire. Mais la thérapie n'est pas suffisante. La thérapie ne permet qu'une chose, être capable de vivre sa vie et de l'améliorer soi-même. C'est la fin de l'été. La lumière qui dort le jardin m'invite à la promenade. Sans attendre, je vais faire un tour dans les bois, faire mon tour. Depuis toujours, j'aime les marches solitaires. Tant que j'habitais en ville, elles me menaient à travers ruelles et boulevards. Maintenant que je vis à la campagne, je me balade sur les petites routes, chemins et sentiers, le nez au vent ou les yeux sur mes chaussures, attentive au bruit des arbres et au pépiement des haies, selon un itinéraire choisi à l'avance. À une variable près, je fais chaque fois le même circuit, calculé pour ne pas avoir à réfléchir, ni à la durée, ni au trajet, et pour être certaine que mes pas me ramèneront à la maison, quelle que soit la direction que prendront mes pensées. Car ces balades sont l'occasion de petits rendez-vous intimes, ces petits rendez-vous intimes qui m'aident à vivre. La rêverie qui les accompagne me permet de rester en contact avec mes souvenirs, sans les traîner partout comme des boulets. Me souvenir d'eux, en marchant, me permet de les oublier en vivant. C'est un peu comme si mon passé pouvait rester dans les rues ou les sentiers, disponible, en retrait, pendant, attendant que j'aille le retrouver à ma guise. La belle fin d'après-midi ambre les cimes des arbres et les rondeurs des vallons. Je marche, contente, dans la paix des choses. L'autre jour, les chattes m'ont remis sous le nez la lettre de Geneviève et j'y pense vaguement. La tête un peu baissée, le pas vif, je laisse mes pensées flotter. Il me suffit d'évoquer la lettre empoisonnée pour que j'apprécie de respirer l'air vif des bois et ma liberté. Comme d'habitude, aux premières enjambées joyeuses succèdent des pensées bien plus moroses. C'est sans surprise. Je sais que je viens user mes bottes pour penser à ma vie. Mes associations me mènent de Geneviève à Marie, de ma mère à ma grand-mère. Je tente d'établir des correspondances entre leurs deux morts. Je note que ma mère est morte 4 ans exactement après ma tentative de suicide. Janvier, février, les mois blancs qu'elle détestait, appelant le mois de février le mois des morts et proclamant « c'est le plus long mois de l'année ». Effectivement, c'est le mois de la mort de ses parents, de son père, de sa mère, celui de sa naissance. On commençait assez mal l'année dans ma famille. La grand-mère, sa fille, sa petite-fille, 3 femmes d'une même lignée, 3 morts suspectes, 3 morts violentes, 3 énigmes, la corde, le rasoir, le poison. Nous avons le sens du tragique dans la famille, du tragique, du secret, de la répétition et de l'aveuglement. Moi, je suis née d'une longue lignée de folles, 3 générations de psychotiques pour faire une psychologue. Je pense que beaucoup dans la salle se reconnaîtront. Je ne dis pas que tous les psys sont fous. Non. Mais la question n'est pas sans les intéresser, disons. Moi, j'ai vécu avec la mort de ma grand-mère, secrète, un secret de famille, une organisation de secrets tout autour d'un impensable. J'ai vécu avec l'alcoolisme de ma mère et l'organisation du secret, de cet impensable qui est l'alcool. On ne disait pas qu'une mère buvait. On ne disait pas, d'ailleurs le mot alcoolique ne fait pas partie du vocabulaire de mon enfance et de mon adolescence. Ça aurait été ivrogne, ce n'est pas mieux. Il y avait tout un secret autour de ça, c'était pas pensable. Et ça a été, pour moi, il a fallu des années d'analyse pour que je puisse le penser, le dire. Et pourtant, lorsque j'étais éducatrice, et lorsque j'étais chef de service, je me souviens, j'étais à l'époque en analyse, et j'avais un don particulier que n'avait aucun de mes collègues. J'étais toujours celle qui savait quel était le degré d'alcoolisation des mères de famille. Tout le monde me trouvait d'une grande acuité clinique. Moi, je savais, je devinais. J'aurais été incapable de dire d'où me venait cette science.